Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Franck Charpentier, qui publie La dernière lettre de Rimbaud, un roman chez Gallimard dans la collection L'Infini. La situation était donc désespérée, mais pas grave. Le désespoir total rend l'espérance actuelle, puisque, démasquant les sortilèges des fils humains dans lesquels ils se prennent eux-mêmes, c'est le seul choix vraiment libre. Je suis, pour moi, et fût-ce pour moi seul, le chemin, la vérité et la vie. Comprenne qui pourra. La dernière lettre de Rimbaud, un premier roman, Franck Charpentier, un premier roman qui en cache sans doute quelques autres qui n'ont pas eu accès à cette dénomination encourageante.
En effet, ce n'est pas le premier que j'ai écrit, bien sûr, mais c'est le premier qui est publié dans la collection L'Infini de Philippe Solers, que je salue au passage, parce que cette parole, si elle a eu voix, VOIE, accès, pour bah donner voix à ma voix, c'est aussi grâce à un lecteur d'abord, Philippe Solers.
Un lecteur de Franck Charpentier et d'Arthur Rimbaud.
Oui, évidemment que je me suis souvenu, en l'écrivant, de Studio, où Arthur Rimbaud avec Friedrich, non pas Frédéric, mais Friedrich Hölderlin, constitue deux personnages, entre guillemets, littéraires, avec d'autres personnages de fiction.
En compagnie. Et ça, vous ne l'avez pas oublié.
Pardon ?
Vous ne l'avez pas oublié.
Non, je ne l'ai pas oublié, mais justement, avec libre de toute influence, mais pas de tout héritage, je me suis souvenu de Studio, et j'ai écrit à ma façon quelque chose sur Rimbaud et puis peut-être quelque chose sur Hölderlin autre part.
Mais c'est un roman.
C'est un roman, absolument. Si vous posez la question en disant « mais c'est un roman », c'est qu'on pourrait en douter. On pourrait en douter pourquoi ? Parce qu'on le prendrait à la lettre pour un essai faisant état de réflexion, de pensée, de méditation. Non.
Le titre peut le laisser entendre, La dernière lettre de Rimbaud.
Pour l'essai,
oui.
Mais aussi mon roman sans cesse médité. Donc c'est un roman qui, bien sûr, fait état d'une lecture longue, de longue haleine. J'y viendrai peut-être tout à l'heure si vous m'en donnez l'occasion.
Ouais, bah allez-y, je vous la donne. Je vous la donne.
Non, mais qui fait l'objet, bien sûr, l'objet d'une incubation longue. Ça remonte avant même l'âge où l'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade, qui s'intitule un roman. Dans les poètes de 7 ans, donc bien avant encore, il est question de mon roman sans cesse médité, où lui la liberté ravit, et où on entend déjà le point d'orgue du Harar. Tout ça, évidemment, n'a pas été conscient, je ne l'ai pas lu à 7 ans, Rimbaud, mais j'ai sous les yeux un livre auquel je tiens, qui est une pauvre édition raturée qui date de 64, GF, de Garnier Flammarion, GF comme on disait. Bah, celle-là, elle a été...
Suzanne Bernard, non ?
La préface, je ne sais même plus, je vais vous le dire.
L'édition.
C'est la chronologie et préface par Michel Descodin. Ouais. En tout cas, vous pouvez vérifier que à la dernière page, il est spécifié qu'il a été imprimé au troisième trimestre 1964. Le narrateur, s'il faut le croire, dit être né en 62. Donc il avait 2 ans. Ce livre a dû traîner une bonne dizaine d'années avant que l'auteur, pour le coup, le trouve sur un rayon d'une petite librairie d'une petite ville de Champagne. On y viendra peut-être par rapport aux Ardennes et à Rimbaud.
Allez-y, allez-y.
Je donne l'autorisation. Merci beaucoup. Non, mais voilà, les connexions se sont faites d'elles-mêmes longtemps, sans, pour le coup, avoir prémédité un roman, mais l'avoir médité. Et puis... Ensuite, il m'a accompagné souvent pendant les vacances, au printemps, en été. L'hiver, il restait chez moi. On parlera aussi des saisons et par-delà les saisons. Donc, voilà, ça s'est fait longuement, avec la lecture aussi de Solaire, on en parlait, avec la relecture, la découverte évidemment aussi plus approfondie des Illuminations et d'une saison en enfer, et pas seulement des poèmes d'hiver que tout le monde connaît, mais justement... J'encourage le lecteur à ne pas penser que c'est un essai, ni à penser que c'est incompréhensible. Vous avez cité « comprenne qui pourra ». On prend avec pour comprendre. Donc on embrasse. Ben, en embrassant, on est déjà sûr de tenir quelque chose en soi. Qu'on en tienne. On ne va pas chiffrer. Voilà. « Comprenne qui pourra », c'est aussi une phrase des évangiles. Ça veut dire aussi « prenne dans ses bras ce qu'il peut, ce qui lui convient ». Alors oui, ce roman a été longuement médité. Et pour conclure peut-être sur ce point d'abord... Et puis un jour, bah, y a une illumination, pour le coup. Dès les premières lignes de l'incipit, je le dis, j'ai échappé au programme, autrement dit à la mort, et de mon vivant, illumination, en italique. Ça n'était pas prévu, si j'ose dire, et pour cause. Et pour cause, oui, c'était pas prévu, c'était peut-être prévisible, c'était, on pouvait le pressentir, mais un jour, je suis tombé sur quelque chose... On dira peut-être pas tout au lecteur, parce que c'est un peu une lettre volée à la Edgar Poe tout de même. C'est-à-dire que tout d'un coup, je tombe sur une signature, celle qui est mentionnée en quatrième de couverture, celle dont use Arthur Rimbaud dans nombre de ses poèmes, de ses lettres, AR, ses deux initiales. Je ne dirai pas le contenu de la dernière lettre de Rimbaud, la lettre elle-même, ni évidemment la découverte qui est un peu le point d'orgue de ce roman, mais je peux dire peut-être que c'est très cohérent géographiquement du début à la fin, son parcours. Conscient ou pas, à la limite, je m'en fiche. Moi, je tombe dessus comme on tombe sur quelque chose sans le faire exprès. Une découverte, on ne le fait jamais exprès. Et je tombe sur A-R-A-R. Je le lis, mais c'est Arar. H-A-R-A-R. Lacanien, tout ce qu'on veut. Ben, je m'en fiche. Voilà, H-A-R-A-R, c'est un déclic pour l'écrivain. Puis tout d'un coup, je trouve quelque chose dans la dernière lettre de Rimbaud aussi. Lettre, il faut le dire maintenant, dictée la veille de sa mort, le 9 novembre 1891, à sa sœur Isabelle, je reprendrai le prénom d'Isabelle pour un personnage féminin du roman, à sa sœur Isabelle, donc la veille du 10 novembre 1891 où il mourra, ironie du sort, à l'hôpital de la Conception, à Marseille. Oui, mais il y a peut-être une naissance la veille, quelque chose qui traverse. Et j'ai perdu le fil, mais ce n'est pas grave.
C'est-à-dire que vous êtes dans un labyrinthe avec Rimbaud.
Et puis on en sort.
C'est ça la question.
Oui, mais on en sort. Dès le début, c'est pas perdu, pour paraphraser à l'envers, le début de Paradis de Solaire. Dès le début, c'est perdu. Enfin, voir rouleau de lumière, mais dès le début, c'est perdu. Non, dès le début... C'est peut-être pas perdu si on retrouve un début avant le début, si j'ose dire, un commencement avant le début où c'est perdu. Mais ce n'est qu'à la fin qu'on saura qu'on a trouvé l'issue à ces milliers d'années de labyrinthe, comme disait Nietzsche.
J'avais presque envie de vous poser la question de savoir si ce livre, La dernière lettre de Rimbaud, n'était pas finalement un roman d'amour.
À quel égard ?
À l'écart de Rimbaud.
Ah, il y a de l'amour.
Votre lettre au père, en quelque sorte, même si le père...
J'entends très bien.
Est presque un enfant.
J'entends très bien la Weinstein, et au passage, même si ce n'est pas le moment, je vous remercie de m'avoir invité. Ben, je ne vous dirai pas tout à fait tout de même. Parce que je pense que les deux personnages du roman sont Rimbaud et le narrateur. L'auteur en est distinct. Les deux font peut-être une lettre au père. Mais ce n'est pas une lettre au père à Rimbaud. Rimbaud serait à ce moment-là plutôt en relation fraternelle avec le narrateur. Ou en tout cas, d'étrange familiarité distance. Mais tous les deux ont eu un rapport au père absent.
Une lettre au père qui, pourrait-on dire, est aux cieux.
Absolument.
Ce livre, c'est aussi un livre sur la question du nom, hein, c'est-à-dire de l'identité. Celui de Rimbaud, bien sûr, mais également celui du narrateur, que vous avez appelé Archimbaud, et celui de l'auteur, Charpentier.
Je vais commencer par une petite anecdote, pour un détour pour vous répondre. Sur un site que je ne nommerai pas, mais qui est un site d'archives solercienne, un très bon site, j'ai eu un écho, tant mieux, favorable. Ce qu'on attend d'un lecteur, c'est-à-dire qu'il ait pris du plaisir à le lire, tout simplement, à sa façon. Et ce monsieur se reconnaîtra. Il me dit, il s'adresse à moi dans cet article, ou en tout cas au lecteur éventuel, Franck Charpentier, de son vrai nom, Frédéric Archimbaud. Je lui ai envoyé un petit mail de commentaire pour le remercier en lui disant simplement « Et si c'était Franck Charpentier de son vrai nom, s'étant rebaptisé dans le roman Frédéric Archimbaud ?» Sauf à faire une enquête de police, mais je vais le dire, puisque vous avez parlé de lettre au père, j'ai pas peur du nom du père, ni du nom de mon père, ni de mon nom du père que j'ai traversé en nom propre et qui est aussi le mien. Votre nom, c'est le nom de votre père, c'est aussi le vôtre. Alors, mon nom, c'est Charpentier. J'avais, anecdote très... un professeur d'allemand qui s'appelait Archimbaud. En troisième, ça m'est revenu comme ça. Puis il y avait bien sûr une référence à Noé, Archimbaud, et je me suis dit... Et Charpentier, la première syllabe de Charpentier, à l'envers, c'est Arche, c'est H-A-R, il y a A-R et il y a Arche. Je me suis dit, Archimbaud, oui, il y a peut-être un personnage du coup de narrateur à créer qui est distinct de l'auteur, qui lui emprunte certains traits, certaines coïncidences, puis il y en a d'autres que j'imagine, et qui donc fait une déclaration d'amour, si vous voulez, à la liberté libre, à sa façon et donc aussi à celle de Rimbaud.
Un roman écrit, donc, vous le laissez entendre, sous le signe de Noé, et surtout de l'Éden et du paradis.
C'est vrai.
Car le paradis est de nouveau envisageable, c'est ce que dit en tout cas le narrateur, donc on peut le croire, et qui dit paradis ne pense pas seulement à Dante.
Ne pense pas seulement à Dante, non. Il y avait d'ailleurs un petit échange amusant entre Philippe Solers et moi-même dans un entretien qui a été publié dans la revue de l'Infini avant la parution de ce roman, quelques mois avant. À cette occasion, d'ailleurs, j'ai pu parler de mon roman. Et on sait que le mot paradis revient à Dante, enfin paradiso, entre autres, revient aussi à Solers, paradis. Et sous paradis, moi, j'entends un mot antérieur et peut-être d'une autre origine aussi, à la fois hébraïque et même, je crois que c'est un mot babylonien pris en hébreu, Éden, qui n'est pas tout à fait le paradis, ou qui est le paradis... Peut-être autrement, on verra si vous avez envie de me poser une question là-dessus par rapport au roman. Mais en tout cas, je ne le tire pas seulement de mon propre fait, même si ça m'intéresse au plus haut point. Mais je le tire aussi de Rimbaud, parce qu'il faut dire qu'à chaque fois, c'est articulé. Les références ne sont pas là pour, bien sûr, pour s'accroupir aux étalages. Ouais. Mais c'est vrai, c'est à l'Éden que je songeais, dit-il dans Une saison en enfer.
Et là, vous ouvrez un autre livre que vous avez apporté avec vous, qui a l'air aussi maculé de notes.
C'est l'autre, j'ai deux versions. Je l'ai bien sûr aussi...
Alors celle-là, c'est Suzanne Bernard.
J'en sais rien.
C'est elle qui est responsable de l'édition Garnier.
Ah, mais pas celle-ci. Celle-ci est plus ancienne. Je ne sais pas. Je vous avoue mon...
Bon. Peu importe. Vous faisiez allusion à cet entretien avec Solers antérieur à la publication de votre roman. C'était dans le numéro 122 de l'Infini, au printemps.
Absolument.
Au printemps dernier. Vous vous entretenez avec l'auteur de Paradis, sous le titre « Une saison en enfer, aller, retour, entretien. Aller, retour, A, R. »
J'avais glissé cette allusion qui était encore, si j'ose dire, subliminale. Mais bien sûr, aller-retour, on va en enfer parce qu'au moins on sera conscient d'avoir pu en sortir. On n'y va pas par plaisir et par goût du martyr. On y va aussi parce que on y est peut-être pris, parce qu'il existe, mais on y va, ou on y est plongé, mais avec une certaine lucidité quand même, qui fait que de toute façon on a décidé d'en sortir et on en sort. Alors aller-retour, c'est retour d'enfer, mais c'est aussi les allers-retours incessants de Rimbaud entre Charleville et Paris, entre Charleville et le Harare, et même jusqu'à la fin. Donc ces initiales portent là encore aussi pour moi la trace de quelque chose qui s'écrit dans sa vie, comme elle s'est formulée et écrite dans celle du narrateur.
Est-ce qu'on peut dire, Franck Charpentier, que tout le roman est une sorte d'interprétation ou d'exégèse de cette série de coïncidences troublantes qui relie la vie de Rimbaud à celle de votre narrateur?
Oui, parce que ce n'est d'abord pas un acte intellectuel ou scripturaire, c'est d'abord un acte sensitif. Sensation de Rimbaud, par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers, picoté par les blés.
Vous connaissez tous les poèmes de Rimbaud par cœur?
Par le cœur, oui, pas tous, mais par le cœur chaque fois.
Sans jeu de mots. Vous les avez beaucoup, beaucoup lus.
Comment?
Vous les avez beaucoup lus.
Oui. Et je vous disais justement à propos de sensation que c'est d'abord un acte sensitif, que la campagne de Rimbaud, je la connais. Et je la connais dès l'enfance. Je connais les arbres. Je connais les fleurs qui arrivent au printemps. Je connais l'hiver rigoureux de cette campagne-là. J'ai vécu en Champagne et la famille du côté de mon grand-père paternel habitait à la lisière des Ardennes. Après, j'ai rajouté des choses. Mais oui, il y avait une série quand même de conjonctions. Peut-être que l'auteur, et cette fois pas le narrateur seulement, a envie et besoin de créer cette, à bonne distance, cette proximité. Parce que c'est peut-être ce qui fait une relation.
Une conjonction de géographie, de dates, d'événements, d'échos.
J'ai vraiment
des femmes aussi.
Il a fait une fugue le 25 février. Je suis vraiment né le 25 février. Et j'ai été vraiment aussi un peu fugueur à l'adolescence. Et puis la sève vous monte comme du champagne. Bah oui, ça me parle. Et les femmes, ou la femme, une femme. Je voulais juste vous dire quelque chose, Alain Weinstein, avant.
Oui, oui, oui.
Parce que je l'avais mise de côté.
Il faut surtout que
non, mais
vous
c'était
tout ce que vous vouliez dire.
Je sais, je me sens très tranquille, mais c'était une déclaration d'amour à Rimbaud. J'ai un petit peu modifié ma réponse. Une déclaration à elle, on va y venir, le personnage féminin. Mais c'est aussi la première lettre du titre, la, elle, dernière lettre, ça commence. Donc c'est une déclaration à la lettre aussi. Une déclaration d'amour à la lettre elle-même. C'est l'amour de la lettre.
Ouais, apprendre à la lettre.
Apprendre à la lettre et dans l'esprit qui fait vivre la lettre, dans la tradition, par exemple, du Midrash, qui fait vivre les textes. On en parlera maintenant, si vous voulez. Moi, je suis...
Parlons-en.
Parlons-en.
Ne remettons pas à demain ce qui peut se faire aujourd'hui.
Ne procrastinons pas. Life's but a walking shadow. A poor player that threats and struts is there upon a stage. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing but. La déclaration donc à la lettre. Si on dit à un lecteur contemporain qu'un texte peut avoir plusieurs sens, s'il a étudié quelque peu la littérature, il saura ce que c'est que le mot polysémie. Voilà, plusieurs sens. Ça ne choquera personne. On sait qu'on interprète, que le lecteur est d'ailleurs très heureux d'interpréter lui-même avec son histoire, etc. Donc si on dit aujourd'hui qu'on interprète un texte littéraire, comme Barthes a pu le dire en parlant, par exemple, des différentes strates de lecture qu'il appelait le feuilleté de la signifiance, les différents feuillets. Enfin, là encore, on se sentira en terra inconnue. Mais on se sentira un peu plus en terra incognita si on parle d'herméneutique. Ce sera un mot un peu plus barbare. Ça vient d'Hermès, transmission de messages, science de l'interprétation des textes. Mais là encore, on se dira que bon, ça existe. Et puis la psychanalyse en parle aussi de l'interprétation des rêves, avec Freud, c'est quand même le titre. Et puis l'interprétation de la lettre chez Lacan et chez d'autres. Donc interprétation d'un texte, interprétation d'un rêve, d'un message inconscient, tout le monde dira oui. Se souviendra-t-on que ces deux méthodes d'exégèse viennent de plus loin ? D'abord peut-être de l'exégèse des pères de l'Église, c'est-à-dire de la lecture des textes évangéliques ou bibliques. Et puis avant encore, de l'amour divin seul octroie les clés de la science, Dixit Rimbaud. Quelle science ? Une science à la fois ouverte, absolument pas totalitaire, mais scrupuleuse, soucieuse de dépoussiérer le texte, de faire vivre la lettre. Lévinas disait de souffler sur les cendres pour faire jaillir la braise. Ça s'appelle la science du Midrash, l'interprétation biblique qu'ont pratiquée des sages depuis bien plus de 2000 ans. Mmh. Et donc aujourd'hui, Monsieur Jourdain fait du Midrash sans le savoir.
Et votre narrateur dit bien, dès le départ, qu'il a la foi en la parole.
Oui.
Et même en la parole de la parole.
Oui.
C'est-à-dire l'infini.
D'où vient cette parole de la parole ? D'avoir foi en cette parole, parce qu'il faut faire crédit à une parole. Ça commence par un acte de foi en la parole, mais surtout parce que la parole, à ce moment-là, est immédiatement dans une âme et un corps. Il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps à la fin d'une saison d'enfer. Ça veut dire que cette parole-là, vous l'incarnez déjà avant de le savoir, si vous avez dit quelque part oui. Et parce qu'elle est bonne, cette parole, elle fait du bien, tout simplement. Elle fait du bien au corps aussi. Elle met debout, elle réveille. On est au cœur de la nuit, mais elle réveille.
Vous avez annoncé une confidence, Franck Charpentier. Vous nous aviez dit, je vais vous faire une confidence.
Laquelle ?
Et puis, vous vous êtes égaré en chemin. Donc, nous sommes restés sur notre fin de confidence.
Dans quel contexte était-ce ?
L'amour.
La dernière lettre...
Je vous ai troublé ?
Pas du tout. La confidence, en fait, c'était aussi... c'était aussi parler de l'amour de la lettre. Alors...
C'était ça, la confidence.
C'était cela, la confidence. et je vais m'en tirer très très bien en parlant du sens du secret. Vous n'avez pas, pour l'instant...
Pas de secret avec nous.
Pas de secret, mais même si on dit le secret, de toute façon, il restera bien gardé. Je fais une allusion, mais qui compte pour moi, à quelque chose qui est peut-être en partie imaginaire, je ne sais, mais en partie vrai, un grand-père portugais, vraisemblablement d'origine marane. Les noms de plusieurs générations le laissent à penser, y compris le nom de sa mère, etc. J'ai une collègue que j'aimais beaucoup, d'origine séfarade, qui est décédée trop tôt, à qui j'ai pensé souvent. C'était pas la confidence prévue, mais ça me dérange pas de la faire, celle-là. Et ça m'émeut toujours de penser à elle, d'ailleurs. Mmh. Qui m'avait dit, mais Franck... Et puis, sous-entendu, mais oui, possible, Marane. On se racontait des histoires dans le métro, dans l'horaire en revenant de la fac. Et on riait beaucoup ensemble. Ce n'est pas elle, hein, ce n'est pas le personnage du roman. C'était une femme plus âgée. Donc voilà, c'était une amie, une véritable amie. Et puis elle est partie un jour. Puis c'est tout, dans ma soif de dire bonjour, malgré tout. Parce que le désespoir dont vous parliez, dont vous parliez, pardon, oui, en effet. Bien sûr que c'est par rapport à la finitude, à la mort, etc. Et qu'en même temps, c'est à ce moment-là que commence seulement la foi, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est l'impossible qui est intéressant, puisqu'on est dans une situation impossible. Même si tout le monde veut s'en rendre amnésique. Alors moi, je me suis dit, je lui dirai bonjour, et peut-être qu'elle me dira bonjour. Elle m'avait parlé d'un article qu'elle avait commis sur Montaigne et la Boétie. Et sur les origines, ça on le sait, Marane de Montaigne. Puis elle m'avait fait connaître une très belle lettre de Michel de Montaigne à son père sur la mort de feu de Monsieur la Boétie, que je cite au tout début du roman. C'est aussi comme ça que ça s'écrit un roman. Ça se trouve. Je n'avais pas prévu de le mettre là. Mais un jour, quelque temps après, j'entre dans une librairie et je tombe sur la lettre. Je dis, tiens, c'est drôle. Je ne me rappelais même plus, à la limite. J'ouvre et je tombe sur le passage que je vais vous lire, qui est éloquent, évocateur. Sur son lit d'agonie, et ses Montaigne fidèles en amitié, qui le rapporte, il entend la Boétie lui dire qu'il entendait bien, je cite, « mourir sous la foi et religion que Moïse planta en Judée, et qui de main en main, par succession de temps, a été apporté en France. » J'ai dit bonjour à cette dame qui m'avait donné cette citation. Voilà.
Le narrateur insiste beaucoup dans le roman sur la mort, sur l'importance de la mort.
Ou l'importance de la traversée, plutôt.
C'est-à-dire qu'il essaye de se défaire de cette pensée de la mort ?
Je vais aller même, excusez-moi, plus loin, de sa réalité.
De l'événement précis.
Pardon ?
De l'événement précis de la mort.
De la mort dans la vie, c'est-à-dire du mourir, de la mort à la fin, de la mort dans tout ce qu'elle induit comme conduite, comme adaptation, comme volonté de survie qui ne sont pas des vies, dans tout ce qu'elle implique. Et sortir de la mort sous toutes ses formes, c'est être dans la liberté libre, tout de suite, maintenant. Et why not à l'infini.
Il y a le côté maternel aussi dans le roman.
Mon grand-père portugais dont j'ai parlé, c'était du côté maternel, justement. Oui, il y a une mère à bonne distance qui n'est pas la mère Rimbe. Mais la mère Archimbe, je m'amuse à l'appeler la mère Archimbe. Et elle a eu sa part de confiance en la parole, elle aussi.
L'aller-retour dont nous parlions, AR, n'est pas à sens unique. Il est aussi l'aller-retour père-mère, mère-père, père-mère. D'autant que, comme le couple Rimbaud, le couple Archimbaud va se séparer.
Dans l'enfance du narrateur, comme dans l'enfance de Rimbaud, en effet, il y a... ni pour les mêmes raisons, ni de la même façon, une séparation et une absence du père. Le père de Rimbaud meurt plus tard que le père du narrateur, mais il est absent un tout petit peu plus tôt, quasiment au même âge. Mmh. Et en effet, il y aura des allers-retours entre, pour Rimbaud, le pays du père, qui peut être l'Orient et l'Afrique, puisqu'il était militaire en garnison au Maghreb, et puis qui lui avait donné une grammaire et un Coran aussi, je crois, bien me souvenir. Donc le pays du père, c'est l'Orient, en quelque sorte, un Orient à la fois fantasmatique, mais un Orient va peut-être plus profond, qui serait l'Orient du temps, l'Orient d'un véritable Éden intérieur, pensé, médité, retrouvé. Mais d'abord, on voyage apparemment dans l'espace, et pourtant on voyage dans le temps aussi. Et puis le pays de la mer, c'est les Ardennes. Et puis il meurt au milieu, une ville ouverte sur le sud, mais remontant vers le nord et revenant du nord, nord-sud aussi, est-ouest, orient-occident. Le narrateur se promène, lui, entre son père et sa mère, au départ, à l'âge de 8 ans, entre Saint-Quentin et puis la Champagne, oui, mais ensuite entre le jardin du bout du monde, c'est-à-dire des Hespérides, avec ces fameux charpentiers des Hespérides, parce que le nom que fin de prendre le narrateur comme pseudonyme d'écrivain alors qu'il s'appelle Archimbaud, c'est justement Charpentier, puisque dans Bonne pensée du matin, Charpentier est écrit avec une minuscule et il devient un nom propre dans la version corrigée dans Une saison en enfer, ce qui m'a bien sûr été comme tendu par une main rimbaldienne miséricordieuse. Donc voilà, j'ai trouvé ce nom-là. Et ensuite, bah, ce Charpentier va jusqu'au bout et avec elle, on va y venir maintenant, il va à la fois à l'orient du temps et à l'orient peut-être de l'espace, l'Éden et puis l'Orient, mais il va aussi à l'extrême occident, en Californie. Et avec elle, alors maintenant, elle, c'est... J'ai dit que ça pouvait être l'initiale de l'être qui répond aux initiales... Qui répond, oui, pardon, aux initiales AR. C'est aussi, évidemment, un jeu de mots sur LE2LE, qui est d'ailleurs pris en italique dans un poème de Rimbaud, elle. C'est une allusion à l'aimer, ni tourmentante, ni tourmentée. L'aimer, dans une des illuminations. L'aimer. Et puis, c'est aussi une personne dont le prénom commence par L et dont j'épelle peu à peu les lettres et le nom à la fois véritable et seulement modifié par une lettre.
La dernière lettre de Rimbaud, le roman de Franck Charpentier, est publié chez Gallimard dans la collection L'Infini. Du jour au lendemain, Olivier Dupré, Anne Franqueni, Didier Pinault, Alain Vensen. Bonsoir. Thank you.